Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. On entame les deux dernières semaines avant de recommencer le planning habituel avec Jean-Philippe Trottier tous les midis du lundi au vendredi et moi le vendredi à 11h30, de 11h30 à midi pour Le Monde d'aujourd'hui. On reprend ça la deuxième semaine de septembre. Mais d'ici là, on termine un peu ces questions d'actualité format estival avec deux dernières petites semaines assez tranquilles et assez intéressantes, je peux vous le dire. Notre invité du lundi, c'est comme d'habitude Guillaume Rousseau. Guillaume, pour sa dernière chronique de l'été, avant toute chose, je voudrais te remercier d'avoir participé aux chroniques de questions d'actualité format estival. C'était comme d'habitude extrêmement intéressant. Je sais que tu vas reprendre ton planning habituel entre les cours à l'Université de Sherbrooke, la chronique à Cogeco, tes participations de temps en temps avec Nick Payne. Et je voulais te remercier d'avoir été avec nous cet été. Ça, les auditeurs ont vraiment apprécié.
Ben, ça fait plaisir pour moi aussi, merci.
Donc on peut commencer un peu sur cette dernière chronique. Cette dernière chronique qui, comme vous le pensez, cher auditeur, sera consacrée au début de cette campagne électorale. Un début marqué par, comment voudrais-tu que je t'appelle, Guillaume, aujourd'hui, monsieur, pour dépersonnaliser la conversation.
Ouais, c'est ça, ce monsieur
va donc nous expliquer qu'est-ce qu'il a pensé d'un début de la campagne. Un début de la campagne marqué par deux polémiques en matinée. Cette madame, pour parler de Dominique Anglade de la part de François Legault lors de sa déclaration d'introduction de campagne, dans un setup quand même assez très bien choisi pour moi au niveau de l'image devant les chutes de Montmorency, et en fin de journée par un tweet de Québec solidaire parlant de ces vieux partis-là, Québec solidaire et Gabriel Nadeau-Dubois, traités d'agisme et avec en contraire de la politique qui est censée changer d'air telle qu'elle est expliquée dans le slogan de Québec solidaire. Voudrais-tu revenir un peu sur cette première journée de campagne?
Oui, effectivement. Donc, je pense que ça a été marqué un peu, effectivement, par ces erreurs-là. Je sais pas si on peut parler de bourde, sans doute. Donc, dans le cas de M. Legault, effectivement, la mise en scène est intéressante avec les chutes. En même temps, les ministres étaient dans l'ombre.
Oui.
Donc, c'était particulier. Puis je sais pas si c'était voulu, mais c'est difficile de penser que ça n'a pas été constaté.
Ouais.
Je présume que les ministres auraient pu s'avancer un tout petit peu puis être dans la lumière. Donc, il y avait peut-être un calcul de vraiment mettre la lumière,
c'est ce que je veux
dire, sur M. Legault. Alors ça, c'était intéressant. Puis, en mettant la lumière sur M. Legault, ben, on a les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que oui, on a quelqu'un qui est non seulement premier ministrable, mais déjà premier ministre, donc très crédible, plutôt populaire. En même temps, quelqu'un qui peut effectivement faire des gaffes. À mon avis, celle-là, c'était pas une grosse gaffe. Madame, on s'entend que ça reste un terme plutôt poli,
mais
en même temps, moi, je serais pas très favorable à ce que les politiciens commencent à s'interpeller par leur prénom, là, parce que là, Madame Anglade a répondu, mon nom, c'est Dominique, donc j'imagine mal en débat François, Dominique, Gabriel, qu'est-ce que t'en penses?
Ce qui me donne en aparté, que penses-tu un peu de les pancartes de QS où on a la mise en avant extrêmement forte du prénom au lieu du nom de famille? C'est vrai qu'on est en politique, on cherche un peu à rapprocher le politique du citoyen, ce qui fait un peu enlever, ce qui enlèverait du cynisme, mais en mettant aussi le prénom en avant. Et quand on sait les stratégies de communication de Québec solidaire, est-ce que en fait ça remet en avant plus le cynisme que ça veut l'enlever?
Moi, ben, je pense que c'est ça. Ça se veut comme un peu plus familier. Puis ça vient, je pense que l'inspiration vient de Justin Trudeau. Hein. Je pense que dès sa course à la chefferie, c'était Justin. Alors que pourtant, on sait que si le chef, c'est en raison
parce qu'il est fils de.
Donc, c'est assez ironique. Mais bon, ça se voulait un peu se rapprocher. Vu qu'il vient d'une famille très aisée et tout, c'était peut-être une façon de se rapprocher. Alors, il y a peut-être un petit peu de ça là, chez Québec solidaire, une volonté là, de se rapprocher. Mais sinon, c'est Québec solidaire, effectivement, quelques couacs de début de sa campagne. Tantôt, t'en parlais, en fait, l'expression qu'il a utilisée, c'est pas vieux parti, parce que vieux parti, bon, ça va, hein, quand on critique des marchés...
C'est les vieux péquistes et vieux fédéralistes.
Vieux péquistes et vieux libéraux, donc ça, c'est autre chose, parce que la distinction peut paraître un peu banale, mais finalement, c'est la distinction en politique qu'il faut respecter, à mon avis, c'est-à-dire on peut attaquer des partis, on peut être très sévère lorsqu'on parle des partis adverses, mais lorsqu'on parle des individus, des élus, des militants, des gens qui forment les partis adverses, là, il faut être beaucoup plus respectueux. Donc, moi, aucun problème de traiter les partis québécois, le Parti libéral, de vieux partis. Mario Dumont le fait longtemps, M. Legault, il n'y a aucun problème avec ça. Mais de s'en prendre aux individus qui forment ces partis-là en disant que c'est des vieux libéraux, des vieux péquistes, alors que Québec solidaire, s'il veut... être élargir élu. Sa base.
Il a besoin de
besoin. C'est ouais. là où il est plus faible chez les personnes âgées. Puis là, de tomber dans ce qui est perçu par certains comme de l'âgiste, c'était vraiment pas leur meilleur lien. En plus, quand c'est fait par un tweet, c'est que c'est pensé, c'est réfléchi, c'est qu'il y a 3-4 personnes qui le relisent. Ouais. Donc, c'est pas une déclaration dans un point de presse, un petit peu
À l'intempestive et tout ça. Et ça me fait penser un peu, vu ce que tu dis, respecter un peu les personnes qui forment ce parti-là, les personnes aussi qui votent donc pour ces partis-là. Ça me fait penser un peu à la question, étant donné qu'on parle de base électorale aussi, à la question d'Hillary Clinton pendant la campagne de 2016, qui parlait des déplorables en parlant des électeurs et ça lui a beaucoup nuit. On peut penser ce qu'on veut, évidemment. Vous savez très bien qu'est-ce que je pense à propos des électeurs et des personnes qui constituent l'entourage de Donald Trump. Néanmoins, on ne va pas le dire de manière extrêmement forte en public dans des débats américains où on sait que ça va être utilisé, réutilisé à la sauce et à la sauce contre vous. Ça peut être quelque chose qui peut lui être utilisé. Il suffit d'une bonne publicité électorale pour utiliser ce tweet et en faire une bonne arme de campagne.
Oui, on l'a vu encore là, l'exemple de Hillary Clinton était bon, parce qu'après ça, toute la rhétorique de Trump, c'est-à-dire, en fait, quand les démocrates m'attaquent moi, c'est pas moi qui attaque, c'est vous.
Ouais.
C'est vous, les gangs petits, les ouvriers.
Et ça a été utilisé par Mathieu Acombe hier, qui a répondu directement à ce tweet dans un autre tweet, en parlant c'est pas nous qui nous attaque, c'est vous. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait être utilisable contre eux.
Ouais, voilà, donc ça c'était la bourbe. Il y a eu d'autres éléments là, qui ressortent chez Québec solidaire. Bon, on sait que dans leur programme, ils souhaitent désarmer la police. Et là, il y avait un balado là-dessus. Donc non seulement c'est dans le programme, mais en plus il y avait un balado animé par Gabriel Nadeau-Dubois.
Le lien est plus difficile à trouver.
Le lien est beaucoup plus difficile à trouver sur beaucoup de sites. Il a été enlevé.
Oui.
Puis là, ben non seulement le lien vers un balado là du chef de Québec solidaire qui parle de désarmer la police, mais plein d'autres propositions un peu. Ça s'appelle d'ailleurs le balado des idées dangereuses.
Ouais.
On se demande, mais on comprend que c'est dangereux pour Québec solidaire et non pas tant pour la société. Donc et là, ça fait un peu, là, on dirait qu'ils veulent cacher leur programme.
Il y a une question.
Ils veulent cacher leur balado. C'est problématique. Là. D'habitude, les partis veulent, en campagne électorale, mettre de l'avant leurs idées et non pas les cacher.
Et aussi, au niveau de ces idées-là, si on se souvient bien, je crois que c'était vendredi ou samedi dans le journal, l'un des chargés de Québec solidaire pour ces questions-là, de sécurité et autres, qui expliquait qu'on mettait de côté cette idée par rapport à ce qui se passe en ce moment, fusillade et autres éléments, mais de l'autre côté, cette idée est toujours présente dans la plateforme et dans le programme. Donc, façon de parler, on veut cacher, mais si, parce qu'on sait que les personnes ne vont pas s'amuser à aller ouvrir le PDF de Québec solidaire sur le projet et le programme tous les jours. Néanmoins, il suffit d'ouvrir le projet et le PDF du programme de Québec solidaire pour retrouver, à part s'ils l'ont mis à jour, dans les dernières heures. Donc, ça montre aussi quelque chose de vouloir un peu cacher, vouloir essayer d'évacuer plusieurs petites polémiques qui sont en train de naître et qui font quand même un bon début, qui pourraient nuire à un bon début de campagne, parce que la présentation de force que Québec solidaire a fait dans Sherbrooke avec plus de 200 personnes et l'ensemble des candidats, c'était quand même assez intéressant sur un aspect scénique au niveau de début de campagne.
Oui, effectivement, avec les paysages de l'Estrie, vignoble et tout, c'était effectivement de très belles images. En même temps, si on parle en termes de mobilisation, bon, 200, c'est pas mauvais. Bon, Sherbrooke étant proche de Montréal, on peut penser qu'il y a des militants là, du noyau dur de Québec solidaire qui ont fait la route. Mais si on compare ça au Parti conservateur dans le coin de Québec, en Beauce, qui va chercher beaucoup plus que 200 personnes, en même temps, ça permet de relativiser. Là, puis si on compare les mobilisations, je pense qu'à date, c'est le Parti conservateur là, qui a mobilisé les plus grandes foules. Mais en même temps, peut-être une erreur un peu tactique là, de M. Duhem, c'est qu'on dirait qu'il a fait 2-3 gros meetings politiques comme ça, en pré-campagne, comme dans les derniers jours, alors qu'hier, finalement, c'était plutôt ordinaire.
Tranquille, on l'épluchage de blé d'Inde.
Exactement, on ne sentait pas qu'il y avait un discours là, de lancement de campagne comme les autres chefs là, qui étaient manifestement prêts pour cette journée où il y avait une émission spéciale à TVA, à Radio-Canada.
Ouais.
C'était vraiment la journée du lancement. Et c'est comme si, avec les élections à date fixe, comme dans les fêtes, ça commence avant le jour du déclenchement.
Monsieur
Duhem en a beaucoup fait avant le déclenchement. Puis le jour du déclenchement, c'est comme s'il a fait un petit point de presse improvisé, on avait l'impression, sans vraiment avoir prévu de frapper un grand coup ce jour-là.
Totalement.
Alors peut-être une erreur tactique là, de lui qui habituellement est plutôt fort en
temps. Moi, sur M. Duhem, au niveau de l'organisation, sur la préparation des bénévoles et des attachés du Parti conservateur, on a pu voir un déployage des différentes pancartes. Donc, le début de l'activisme politique extrêmement rapide pour quelque chose à quoi on ne s'attendait pas du Parti conservateur. Je ne pensais pas qu'ils auraient autant de bénévoles pour pouvoir poser des pancartes, pour pouvoir juste pouvoir être actifs le jour du vote dans les circonscriptions. Et là aussi, on peut voir qu'il y a eu une upgrade, un changement de niveau dans ce parti-là, plus professionnel, plus préparé pour ce genre de scrutin.
Oui, effectivement. Donc, dans leur cas, la présence d'affiches est vraiment très, très importante parce que ça vient alimenter qu'ils font partie des cinq grands. On le savait déjà à la lumière des sondages, là, mais là, ça devrait vraiment dire que c'est pas justement seulement une bulle sondagière, le Parti conservateur, mais c'est un parti avec une organisation, avec des bénévoles. Donc, je pense que c'est important, particulièrement dans la région de Québec où ils ont été parmi les premiers puis parmi ceux qui en ont mis le plus. Voyez-vous, chez nous, j'en voyais un petit peu moins à Sherbrooke, j'en voyais un petit peu moins dimanche matin, mais on m'informe qu'ils en ont beaucoup.
À Montréal, il y en a beaucoup alors qu'on s'y attendrait pas. C'est quand même assez incroyable.
Et par contre, là, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, puis il faut faire attention, là, je pense pas que ce soit des images photoshopées, truquées, ça serait peut-être à vérifier, mais
Rampantigny.
J'ai vu deux exemples passés, Rampantigny, effectivement, donc une erreur dans Rampantigny, puis dans René Lévesque, où on a mis un accent grave de trop, alors qu'on n'a pas besoin avec le S.
Ça serait du trucage.
Donc peut-être oui des bénévoles pour mettre les pancartes, mais est-ce qu'il y a le niveau de professionnalisme pour au niveau des cadres, parce que c'est une chose d'avoir des bénévoles de base qui mettent des affiches, là, c'est pas si compliqué, mais d'avoir des cadres pour écrire les pancartes pour les slogans, donc le côté un petit peu plus intellectuel, c'est peut-être là la faiblesse du Parti conservateur, parce que le chef qui est très intello. Puis il y a une base militante, je pense, très, très mobilisée. Mais entre les deux, là, en termes de cadre, est-ce qu'on a des technos, est-ce qu'on a des intellos autour de M. Duhaime? Ça m'apparaît pas évident. Là. Anne Casabonne, qui est un peu la numéro 2 du parti, est très bonne dans les coms, dans le théâtral. Elle fait très bien le travail d'animation de poule lors du meeting, mais c'est pas nécessairement une personne qui a une pensée politique hyper détaillée. Alors, il y a des questions qui se posent pour le Parti conservateur.
Et ça, ce qui mène ensuite à la question concernant nos deux vieux partis, comme on parlait en début de chronique, c'est le Parti libéral et le Parti québécois. Un lancement de campagne assez bizarre pour le Parti libéral, devant le bus, assez low cost, on va dire. Mais pour le Parti québécois, un monologue de Paul Saint-Pierre Plamondon qui a quand même été assez applaudi sur les réseaux sociaux et assez applaudi dans les médias, comme vraiment avec beaucoup de focus et beaucoup de détermination. Est-ce que, expliquant aussi que le Parti québécois serait l'équipe cendrillon de ces élections, qu'as-tu pensé du lancement de campagne de ces deux vieux partis?
Donc, du côté du Parti libéral, effectivement, je pense que ça confirme que toute la campagne vise à mettre en valeur Madame Anglade. Donc, on sait que l'équipe, ça a été plus dur cette année en termes de recrutement. On ramène M. Letao, mais en fait, comme président de campagne, mais en fait, il n'est même pas candidat.
Donc,
on sent qu'au niveau de l'équipe, c'est le parti qui est plus en retard pour recruter des candidats. Bon, donc, il y a vraiment des difficultés de recrutement. Alors, l'équipe étant plus faible, on mise tout sur la chef. Donc, point de presse de la chef seule, ce qui est effectivement assez particulier. Bon, maintenant, ensuite, elle est plutôt bonne en communication, plutôt sympathique. Là où elle a trébuché, par contre, c'est toute la question du français. Donc, depuis la publication là, des résultats du recensement qui démontre le déclin du français, donc elle se disait préoccupée, mais pas inquiète. Hier, elle tentait peut-être de dire, ben finalement, utilisez le mot que vous voulez. Elle disait aux journalistes, bon, on va prendre le mot que vous voulez. Ce qui fait pas vraiment leadership. Là, c'est pas aux journalistes de décider le mot. C'est à elle de dire, voici le bon mot, tel autre convient moins, puis voici ce que je pense. Alors, elle était beaucoup dans l'hésitation. Et jusque-là, sa ligne, c'était de dire, non, on n'est pas inquiet pour la langue. On est préoccupé. Ce qui est une petite coche en dessous, comprend-on. Mais là, en parallèle avec ça, évidemment.
Le tweet du candidat de l'Acadie.
Ouais, exactement. Donc, puis même un point de presse d'un candidat qui est venu dire, non, on n'est pas inquiet pour le déclin du français. Il faut comprendre que c'est des gens qui sont dans les comtés plus anglophones avec le QCGN, les lobbies anglophones qui disent qu'il n'y a absolument pas de déclin du français puis qui sont vraiment très fermes là-dessus. Donc là, eux sont comme un petit peu pris et l'ambiguïté de la chef, ça l'a libéré cette aile du Parti libéral plus antinationaliste. Et là, je pense qu'elle l'a échappé là-dessus. Et là, elle tentait un petit peu de revenir en arrière, mais il était trop tard parce que le chef donne le ton.
Totalement.
Et ensuite, les candidats vont dans le même sens, parfois un petit peu plus loin. Donc, quand la chef veut revenir en arrière, c'est pas...
Et le rétro-pédalage, c'est pas quelque chose qui est assez utile, surtout en début de campagne, et surtout quand, au niveau du Parti libéral, le Parti libéral est à 7% chez les francophones, et que la chute est encore plus loin, est encore possible.
Oui, c'est ça, tout le monde dit. Là, le Parti libéral a atteint un plancher chez les francophones, mais moi, je pense qu'on disait ça à 10%, on disait ça à 9%, on disait ça à 8%.
Ouais, c'est ça.
Là, à un moment donné, il faut qu'elle fasse attention. Et manifestement, hier, les journalistes lui posaient la question, qu'est-ce que vous avez pour les francophones? Et là, ils disent, on va combattre l'inflation, on va baisser l'impôt. c'est pas pour les francophones, c'est pour tout le monde.
C'est ça.
Ça peut toucher les francophones, évidemment. Mais tu sais, il n'y a rien de spécifique. Quand vous avez 7% chez les francophones puis 50% chez les anglophones, c'est pas en parlant de thèmes qui touchent tout le monde que vous allez remonter. Il faut parler de thèmes qui touchent précisément les francophones. Et Mme Anglade semble pas vouloir faire ça.
Et donc, sur la question du Parti québécois, l'équipe Cendrillon, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité, quand on voit le chef, parce qu'il parle très bien, je vois son interview avec Pierre Bruno hier à TVA, qui était quand même assez intéressante, je ne m'attendais pas quand même une assez grande vigueur à ce point-là de Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai même été assez étonné en tant qu'observateur sur la qualité de son intervention, ce qui était assez différent des dernières interventions, plus avec hésitation qu'il avait pu avoir.
Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, j'ai trouvé que sa fin de pré-campagne, si on peut dire, avait été ordinaire. Mmh. Je me souviens de quelques entrevues où il disait pendant cette campagne, on va avoir du plaisir. Donc, je sais pas pourquoi ça inciterait les électeurs à voter pour eux. Puis j'avais l'impression que c'était une façon de dire on est vraiment très bas dans les sondages, on s'en va à l'abattoir, mais on va le faire avec le sourire. Donc, je trouvais que c'était vraiment une mauvaise ligne. Là, hier, il y avait un peu de ça, mais bon, forcément, il faut qu'ils donnent un petit côté positif, ouais, optimiste, malgré le contexte difficile. Donc, l'équipe Cendrillon, je pense que le message est bon, c'est-à-dire on est sous-estimé, mais finalement, on va connaître un meilleur sort que ce qui est prévu. Bon, en même temps, ça fait un peu Disney,
un peu conte de fées. Il était une fois.
C'est ça, c'est pas l'image la plus intellectuellement construite. Donc, bon, ça a du bon, ça a du moins bon. Sinon, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, son point de presse, c'est vraiment qu'il a dit, bon, la question de l'urne, c'est la question du déclin du français.
Totalement.
Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien parce que on sait qu'ils vont beaucoup sur l'indépendance. Mm. C'est correct, puis ils s'assument là-dedans, comme leur slogan le dit. Mais je pense que l'indépendance, c'est pas une priorité pour, il y a peut-être 30% d'indépendantistes, mais il n'y a pas 30% de gens pour qui c'est la priorité numéro un. Donc, s'il allait là-dessus, je pense que ça se limiterait à vraiment une mobilisation de sa base, mais ça permettrait pas de l'élargir. Là, je pense que sur le français, il peut élargir sa base, il peut gruger du côté de la CAQ. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'il se positionne d'abord là-dessus au niveau de la question de l'urne.
Surtout ce qui permet de revenir un peu sur les chiffres dans ça, parce que le lancement de campagne, c'est revenir sur les chiffres du dernier sondage. C'est 38% d'indécis. Une personnalité de François Legault, finalement, c'est Legault mais, comme dirait Jean-Marc Léger dans le cadre de sa chronique au Journal de Montréal, où certes la CAQ est à 42-44%, une avance, ça va être la majorité pour la carte, mais est-ce que ça va être une majorité ou une super majorité? Et c'est de là va décider le scrutin, mais surtout le scrutin de 2026, l'opposition en attente pour la prochaine élection, un parti qui pourrait vraiment s'opposer à la domination de la CAQ si M. Legault décide de ne pas se représenter aux prochaines élections de 2026. Ce qui pose la question, quelle opposition officielle tu vois? Est-ce que quand on voit les différents chroniqueurs qui disent que oui, ce sondage montre que QS est institutionnalisé, mais c'est institutionnalisé avec quand même seulement 10, un potentiel de croissance à seulement 12 à 14 députés, mais il y a aussi un potentiel de perte de députés Sherbrooke, Rouyn-Noranda et l'Abitibi et d'autres comtés. Montréal, l'Est de Montréal, on dit qu'ils sont à planter, mais néanmoins la CAQ veut aussi faire des gains dans cet endroit-là. La campagne avec les tassements de voix, les différentes votes utiles et sécurité du vote pourrait aussi desservir un peu les oppositions. Est-ce que tu penses que cette campagne va être vraiment utile, surtout avec sa longueur, courte longueur, pour créer un gouvernement en attente?
Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, je pense qu'on va tous regarder là, qui se positionne comme opposition officielle, qui se positionne en vue de 2026. Normalement, ça devrait être le Parti libéral, parce que malgré sa chute chez les francophones, il reste assez fort chez les anglophones. Il faudra regarder comment le Parti de Balabara on est, ou le Parti canadien du Québec fait, pour voir s'il gruge un petit peu. Pour l'instant, normalement, le Parti libéral va garder ses 12-15 comtés anglophones, donc ce qui va rendre très difficile la tâche de Québec solidaire, qui voudrait avoir plus que ça. Puis pour Québec solidaire, le défi est très grand parce que depuis le début de leur existence, ils sont en croissance lente, avec un petit saut plus intéressant en 2018. Mais donc, cette fois-ci, s'ils font pas des gains, s'ils stagnent ou s'ils reculent, ça enverra vraiment un mauvais message. Parce que dans le fond, Québec solidaire, c'est de deux choses l'une. Soit c'est le nouveau Parti québécois,
c'est ça.
Donc un parti de gauche qui va prendre le pouvoir assez rapidement. Bon, déjà, c'est pas très rapide là, après
15 élections. Six élections, ils n'ont pas dépassé les 10 députés.
Alors que le Parti québécois, en 3 élections, 8 ans, ils y arrivaient. Donc mais ça c'était la ligne. Dans les débuts de Québec solidaire, on disait ben on se fait traiter de gauchistes et tout, mais en fait, on est comme le Parti québécois à la fin des années 60. Donc ça, c'était leur ligne. On voit que c'est peut-être plus manifestement beaucoup plus long la prise du pouvoir que le Parti québécois. Donc là, l'autre hypothèse, c'est que le Québec solidaire serait une espèce de NPD de la scène québécoise, c'est-à-dire un parti de gauche que les gens trouvent sympathique, mais pour qui ils votent pas nécessairement, et qui, en cas de gouvernement minoritaire, peut avoir un petit peu d'influence, mais qui ne prendra jamais le pouvoir, sauf peut-être un jour dans le forme indirectement dans le cadre d'une coalition. Et là, ce qui pose la question aussi d'une potentielle coalition PLQS, comme il y a NPD, PLC au fédéral. Donc si c'est ça, le Québec solidaire, s'ils font pas plusieurs gains, je pense que ça, on va devoir remettre en question là cette possibilité-là là, qu'ils deviennent un parti de deux gouvernements. En même temps, si jamais ils font des gains, et même s'ils deviennent opposition officielle devant les libéraux, ce serait effectivement la grosse nouvelle du 3 octobre au soir, et là, ça ouvrirait des perspectives d'avenir là, intéressantes.
Assez importante. Et de l'autre côté aussi, pour le Parti libéral, ce qui me fait penser, quand on voyait aussi les perspectives de vote par circonscription selon les différents agrégateurs de sondages comme Québec 125, certes, ils garderaient des châteaux forts, que ce soit dans l'Outaouais ou dans l'ouest de Montréal, mais il y a la possibilité de perdre de la circonscription de Mme Anglade et la circonscription de Verdun de Mme Mélenchon, ce qui est quand même assez problématique si, en plus, certes, le PLQ garde son statut d'opposition officielle, mais la chef perd son comté.
Oui, effectivement. Donc, à ce moment-là, ce serait vraiment son avenir qui jouerait, à la fois si elle devait perdre des sièges et surtout, ça devait perdre son siège. À ce moment-là, je pense que la question de son avenir comme chef se poserait. Surtout qu'on, même que certains, depuis qu'elle est chef, certains le murmurent au Parti libéral que c'est une chef de transition. Donc, en même temps, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un de très évident là, qui pouvait être un chef charismatique, crédible et partant là, pour reprendre la chefferie du Parti libéral. Donc, c'est effectivement...
Denis Coderre est disponible.
Ouais, effectivement, je présume. S'il n'avait pas perdu la dernière municipale, ce serait peut-être pas si fou, mais là, je pense qu'il n'est pas en position de le faire, quoique on sait jamais
avec Denis.
Effectivement. Donc, mais c'est ça, effectivement. Pour Dominique Anglade, comme pour Québec solidaire, il faut des gains. Dans son cas, Dominique Anglade, une stagnation plutôt que des gains. Ouais. Si elle gardait son siège, à la limite, elle pourrait peut-être poursuivre. Mais il faut qu'elle reste l'opposition officielle, sinon c'est la catastrophe pour le Parti libéral.
Bon, en tout cas, ça va être très intéressant de pouvoir t'écouter dans tes différents médias où tu peux intervenir pendant la campagne. Et aussi, tu reviens quand tu veux à Radio VM. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous tout l'été pour faire des petites chroniques tous les lundis, chroniques sur l'actualité politique et l'actualité générale. Ça a vraiment été super sympa de pouvoir discuter avec toi et c'est toujours un plaisir de pouvoir rediscuter avec toi dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Guillaume.
Ben, merci à toi. On se reprend les fesses en faute.
Merci à toi.
Au revoir.
C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona est micro et le barbu magicien de la réalisation aux manettes, Daniel Fortin. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.